bienvenue à vous pour ce nouvel épisode. Ça me fait plaisir de vous avoir. On tenait aussi également à remercier tous nos abonnés pour voilà, cette fin d'année. On va revenir voilà, sur ce Masculine Talk qui a été lancé en février dernier. Et puis, depuis le début, vous cessez de nous surprendre. De plus en plus d'écoutes à chaque fois. Merci à vous, même si on n'est pas régulier. On tenait à s'excuser, mais bon, avec les emplois du temps de chacun. Bref, vous comprenez. Merci pour votre soutien. Merci pour les réactions que vous faites sur Twitter, sur TikTok. Merci à vous tous. Les frères, comment ça va ce soir? Enfin, ce soir... Ouais, là, on est ce soir, on va pas mentir, on enregistre à 23h. Comment vous allez, les frères? Ça va?
Super.
Superbe.
Lui, il est au taf encore, lui.
Ah, c'est vraiment, il est vraiment au boulot, là. C'est Renaud. On parle là, superbe. Merci. Ça va, Gurvan?
Fort bien, mon ami. Et toi?
Mais je vais le tuer, c'est pas possible de dire des trucs comme ça.
Ouais, je peux pas dire fort bien, si je vais fort bien, j'ai le droit de dire fort bien.
Oui, fort bien, après on est plus en 1445, tu vois, tu peux
c'est
changer
vrai.
Quoi.
C'est vrai.
On a aussi à cœur avec nous, le frérot à cœur, comment ça va mon frère?
Ah, on est là, tu connais toujours du reggae.
Ah, truc. Mon ouais. Dieu, l'arrivée tonitruante. Les frères, le 8ème de finale est tombé, on sait qui va être notre adversaire, le Napoli. De Victor Osimhen, de Kvisha Kvaratskhelia. J'ai réussi à le dire sans bégayer. Je vais vous demander la première question de ce podcast, de cette émission. Pour vous, est-ce que c'est un tirage qui est plutôt favorable? Est-ce que vous êtes pessimiste? Comment vous vous sentez? Je vais poser la question d'abord à Meda. Comment tu te sens vis-à-vis de ce 8ème de finale?
Tirage favorable. Je pense qu'on aurait pu avoir mieux. Maintenant, je pense qu'on aurait pu avoir pire aussi.
Ouais.
Maintenant, on est le Barça, donc on est censé... N'importe quel tirage est censé nous arranger. On n'est pas censé se plaindre d'un tirage en huitième sur un chapeau 2. Maintenant, au vu des formes, etc., si on suit Naples, etc., c'est un peu compliqué. Depuis le début de saison, ils ont changé de coach, ils ont rechangé de coach. C'est pas du tout sur la dynamique de la saison précédente. Là, j'aurais eu vraiment peur pour le coup. Mais en même temps, nous aussi, c'est pareil. Hein. Je veux dire, c'est très compliqué de notre côté. Après, maintenant, on n'est pas en février. Donc on ne sait pas encore ce qu'il en sera à ce moment-là, mais je dirais pas tirage favorable. Je dirais que c'est peut-être l'un des plus relous, mais en même temps, c'est pas le pire. Quoi. Je pense à Paris, par exemple, qui aurait pu être vraiment, vraiment chiant.
L'Inter aussi,
ouais. Voilà, franchement, ça va. Il y avait pire, mais il y avait mieux, quoi, au vu des formes. Maintenant, on n'est pas en février, il faudra voir. Ils ont de la qualité et on n'est pas à l'abri d'un sursaut, quoi.
Pour rappel, le Napoli, sur les 10 derniers matchs, c'est seulement 4 victoires, 4 défaites et 2 matchs nuls, si je ne me trompe pas. Des défaites notamment contre le Real 4-2, contre l'Inter 3-0, contre la Juventus aussi également. Donc voilà, un état de forme qui est pauvre, mais vous me direz que le Barça également, c'est pas ce qu'on espérait en ce début de saison. Gervain, comment tu te sens vis-à-vis de ce 8ème de finale contre le Napoli?
Moi, très honnêtement, c'est un tirage qui me plaît. Médard a très bien dit, c'est pas une équipe qui est sur une grosse dynamique en ce moment. Nous non plus, tu vas me dire, mais c'est un tirage qui fait en sorte qu'on va respecter l'adversaire, parce que ça reste quand même une très très belle équipe, un très gros club. Donc je préfère taper un club comme ça en huitième plutôt que d'arriver avec un tirage certes plus accessible mais avec lequel tu y vas en disant c'est bon, on a déjà gagné. Là, tu es obligé de respecter l'adversaire, donc dans ta manière d'approcher le match, tu auras un plus de sérieux. J'espère qu'on aura une meilleure dynamique lors des deux rencontres que notre dynamique actuelle. Mais en soi, moi je suis content, c'est un club que j'aime bien, ça sera des matchs plaisants, j'espère, assez ouverts. Mais Dar l'a très bien dit, tu vois, ça reste mieux que le PSG ou, tu vois.
C'est clair, si on tombait sur PSG, ça va être beaucoup plus compliqué. À cœur, t'es comment vis-à-vis de ce 8ème, toi?
Pour être honnête, par rapport au tirage, moi, honnêtement, je trouve que c'est assez équilibré. Maintenant, comme j'ai toujours dit sur Twitter ou quoi que ce soit, on reste le Barça, et à mes yeux, enfin... Et perdre contre Napoli, même si on les respecte, hein, bien évidemment. Et perdre contre Naples, pour moi, ce serait une catastrophe sans précédent. Il n'y a pas de crise ou quoi que ce soit. Même en crise ou même en étant moins bien, on n'a pas ressorti contre ça. Et je rappelle aussi, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais qu'ils viennent de se faire sortir là à l'instant par Frosinone 4-0 à domicile en Coupe d'Italie.
Donc, le Napoli.
Oui, Alain, ils viennent de perdre un stock contre Frosinone. Mais bref, ça montre en tout cas qu'une équipe en face qui, déjà défensivement, prend beaucoup de buts cette année. Clairement, c'est une équipe qui, défensivement, n'est pas assez solide. Et puis, c'est une équipe qui a souvent réussi au Barça régulièrement en Coupe d'Europe. Et je me souviens encore, en 2022, quand on les affronte en Europa League, tout le monde nous voyait limite se faire torcher par Naples. Et c'était tout à fait légitime, vu qu'on n'était pas du tout en forme. Et bizarrement, c'est l'un des meilleurs matchs qu'on ait le plus abouti sous Xavi en Coupe d'Europe. Donc moi, je me dis que, honnêtement, le Barça, s'ils font les choses bien, on devrait passer. Maintenant, on connaît, entre guillemets, les trois matchs du Barça en LDC. Est-ce qu'ils vont régler ça avec les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver et une mentalité peut-être différente, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ose espérer que la réalité d'aujourd'hui ne sera pas celle du mois de février.
C'est vrai que vous avez souligné tous les trois quelque chose d'important. On aurait bien voulu arriver avec des certitudes en ce début d'année, on savait que la poule qu'on avait vue, bien que on a eu des doutes à un moment, ça a failli flancher, mais bon, si on se demandait si on est finalement en huitième de finale, c'est toujours le trauma qu'on a. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, j'aurais bien voulu aborder ce huitième de finale en étant serein, en ayant une équipe qui arrive à mettre des buts, en ayant des joueurs qui surtout attaquants, qui soient prolifiques, et on n'a pas ça. Et pour moi, c'est vraiment le et je pense pour tout le monde, le gros point d'interrogation, c'est sur cette capacité que le Barça a de pouvoir terminer ses matchs au plus vite. Et en Ligue des Champions, on sait que c'est l'une des qualités principales d'une équipe, c'est-à-dire de savoir mettre ce 2-0. Et que nous, déjà, le 1-0, on n'arrive pas à le mettre parce que souvent on rattrape le score. Mais quand on en met un ou qu'on en prend un, on en prend un direct. Enfin, on en met un, on en reprend un derrière, on nous en met un, on arrive à en remettre direct un derrière, mais après on galère à enchaîner le 2-0. Enfin, le 2-1 ou le 2-0, bref, vous m'avez compris. Sur cette dynamique de l'équipe-là, pour vous, quel va être le grand enjeu du Barça-là sur ces prochaines semaines, prochains mois, pour retrouver ce Barça-là qu'on attendait quand même de Xavi et qu'on n'a pas eu depuis le début de saison quand même? Je ne sais pas si la question est un peu claire, parce que même moi, je ne me suis pas compris.
vous pouvez répéter, s'il vous plaît.
Je répète. En gros, grosso modo, pour vous, quelle est la clé de... Pour vous, comment le Barça peut-il au mieux se préparer contre le Napoli? Parce qu'on sait qu'en vrai, ce qui manque au Barça, c'est les buts. Est-ce que vous attendez, parce qu'il y aura le mercato hivernal, quelle arrivée vous attendez? On sait qu'il y aura des milieux de terrain. Mais est-ce que vous êtes sûr aussi avec l'attaque qu'on a, qui est pas folichonne? Comment vous abordez? C'est quoi votre état d'esprit avant ce match-là?
Bah perso, j'attends un gros travail mental. On n'en parle pas assez, mais pour moi, il y a des choses qui se passent devant notamment qui sont mentales et même derrière. On a une défense qui est déjà pour en parler parce que c'est le sujet le moins grave, on va dire. On a une défense qui est pas du tout sereine. On a une défense qui prend des buts sur des erreurs constamment. On a un Koundé qu'on a du mal à retrouver depuis sa blessure. On a Araujo qui a toujours été vraiment l'agence touriste, celui qui ramène une certaine sérénité derrière, du moins sans ballon, hein, parce qu'avec ballon, c'est autre chose, mais qui nous ramène pas justement cette sérénité. Maintenant, pour parler des plus gros problèmes, c'est offensif. Pour moi, j'attends un vrai travail mental de Lewandowski, parce qu'il y a un gros problème devant la cage, et on peut me parler de son âge, on peut parler de sa forme autant qu'on veut. Pour moi, c'est plus mental que physique. C'est pas normal qu'un joueur avec une telle finition, pour parler que de ça globalement, soit aussi mauvais devant la cage. Pareil pour Rafinha, j'ai l'impression qu'il a beaucoup, il a vraiment peur de tenter. Et quand ton joueur le plus en forme devant la cage, c'est João Félix, qui n'est pas connu pour sa qualité de finisseur, il y a quand même un gros problème devant. Donc j'attends un travail mental au niveau de la défense et de l'attaque. Au milieu, je trouve que ça va quand même malgré tout. Même s'il nous manque ce 6 vraiment casseur d'action, mais au milieu, je trouve que ça va. Moi, c'est vraiment pas le problème de cette équipe, tu vois.
Toi, Gurvan, t'es comment? Comment tu vas aborder ce match-là? Comment tu veux? Sur quel axe tu veux que l'équipe vraiment se développe plus, quoi?
Bah après, l'aborder, c'est toujours compliqué, tu vois. On est au mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Malheureusement, il peut y avoir des blessures de dans chaque équipe, tu vois, qui vont venir complètement changer la donne et au final l'approche du match ne sera pas la même. Mais moi, je rejoins clairement Mehdi. On oublie trop souvent, c'est l'aspect psychologique. Et pour moi, là, on est un Barça qui est pas du tout en confiance. On voit des joueurs qui ont peur de tenter, tu vois, à l'image de Rafinha, ce que tu disais, Robert qui est complètement méconnaissable, même jouer en une touche de balle, pour lui, ça devient compliqué, un contrôle simple, une passe simple, tout devient compliqué, clairement méconnaissable. Donc moi, j'espère qu'on va enchaîner les bons résultats qui vont permettre à l'équipe de retrouver confiance. Il faut faire ce plein de confiance. Il va te permettre d'aborder ce match-là beaucoup plus sereinement, en fait, tu vois, en étant sûr de tes forces. Parce que là, depuis le Classico, je vois clairement une équipe qui doute. T'as réussi à montrer un bon visage face à l'Atlético, tu te dis ça repart. Derrière, tu retombes dans tes travers, c'est méconnaissable.
Ah, c'est une équipe, mais dis-le honnêtement, c'est une équipe qui est catastrophique. Honnêtement, c'est catastrophique.
Ah ouais, c'est catastrophique. Parce que ce que j'ai vu dernièrement, c'est catastrophique. C'est aberrant, c'est indigne du Barça. Je vois l'attitude de certains joueurs. Je sais que c'est le chouchou et que malheureusement il s'est blessé, mais Pedri, quand je le vois marcher, j'ai du mal à l'accepter. Ou alors faut le faire changer de poste, je sais pas, mais je peux pas accepter que sur une phase défensive où tu vois que c'est une action chaude pour l'adversaire, je peux pas accepter de voir un de mes joueurs marcher comme ça. Donc c'est des attitudes à changer, c'est de la confiance à reprendre. Et après, pour moi, je reste persuadé qu'on peut clairement passer sans, je vais pas dire sans aucun souci, parce qu'une fois de plus, je vais respecter le Napoli, mais enfin, pour moi, j'ai pas plus d'inquiétude que ça si on arrive à retrouver notre confiance.
Ok. Et toi, Hacker ?
Moi, comme j'ai dit précédemment, moi, je pense qu'en vrai, genre, j'ai un feeling assez bizarre. Je sais pas si c'est mon côté supporter, mon côté machin. En fait, déjà, moi, je pense qu'il y a un truc qui fait que ça va peut-être pencher d'un côté ou de l'autre. Est-ce que le Barça va recruter un 6 cet hiver ou pas ? Parce que moi, je pense que, t'as vu, tu peux pas gagner une Ligue des Champions avec Frenkie de Jong en 6. Hein. Je l'aime beaucoup, hein, bien évidemment. Mais moi, j'ai vu des comportements en phase défensive qui m'ont fait péter un plomb. Que ce soit du côté de Frenkie, du côté de Pedri, du côté de même de Gundogan. Mais Gundogan, un peu moins, parce que je trouve qu'il a déjà 33 piges et que, vas-y, frère, on peut non plus demander de commencer à courir partout. Mais quand je vois les attitudes défensives de Pedri, Frenkie de Jong à la porte de balle, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Et moi, je pense qu'un prêt cet hiver d'un 6, pour moi, c'est limite primordial déjà. Après, t'as des noms qui sont intéressants, à voir si on arrive à les faire. Ça commence à parler d'un Partey ou d'un Højbjerg, je demande à voir, mais oui, pourquoi pas. Maintenant, moi, en tout cas, je pense que malgré ça, t'es obligé au moins d'aller encore. Parce que comme j'ai dit, pour moi, tu seras en 8e face au Napoli. Tout respect que j'ai pour eux, c'est catastrophique. Et Xavi ne pourra pas tenir après ça. Parce que, honnêtement, là, qu'on se le dise, hein, tu peux pas en quart de finale, t'as une chance sur deux de tomber sur un côté qui est beaucoup plus simple que l'autre. Même si on sait très bien que c'est tous les gros sans être compliqué, t'auras forcément une équipe qui sera beaucoup plus abordable que n'importe laquelle. Et là, le problème, c'est que si tu sors là maintenant 8e face au Napoli, bah, ça veut dire que t'étais pas prêt en Europe. Et encore plus avec une équipe qui en face est en doute complet, comme nous, qui a une défense qui est encore pire que la nôtre et qui a un milieu de terrain qui t'attend un peu plus. Et Osimhen, ça reste un danger malgré tout. Même si je pense qu'Araujo, c'est le genre de joueur qu'il aime bien. Et concrètement, chaque fois dans les matchs comme ça, il sera très très peu. Mais moi, je pense que le Barça, malgré tout, même avec les forces actuelles, même avec le mental qui se passe maintenant, ils ont l'obligation de gagner en fait. Il y a pas de. Ils doivent gagner. S'il y a tout autre résultat qu'une victoire, c'est un échec total.
Moi, je sais pas pourquoi beaucoup voient le Barça passer. Moi, j'ai un gros, gros, gros doute. Parce que je vois pas non plus. On parle du Napoli qui traverse une phase et tout, mais je trouve que la phase que traverse le Barça, c'est beaucoup plus inquiétant qu'autre chose, en fait. On n'a aucun joueur devant qui arrive à aligner un but, qui arrive à nous mettre un but. Vous avez parlé de Lewandowski. Moi, je vais parler de Rafinha. Les gars, c'est peut-être le pire Brésilien de l'histoire du Barça. J'ai jamais vu une personne... Non, mais moi, il n'y a même pas d'excuse.
Douglas,
ouais. Ouais, ouais. Oui, il y a eu Douglas, tu vas me dire, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais au pire, voilà.
Il y a eu Douglas.
Mais après, moi, je pense que les petits attaquants, moi, je pense que c'est plus une histoire de confiance, tout ça. Et le groupe en lui-même n'est pas confiant. Et le pire, c'est que c'est ce qui est cruel, hein, c'est qu'en fait, les postes clés, tu ressens les mecs qui sont pas en confiance. C'est-à-dire que devant, c'est des postes que tu dois finir. Et derrière, bah, c'est là où tu dois littéralement se sauver les fesses. Et des deux côtés du terrain, t'es mauvais. Donc ça pose problème. Et déjà.
Ouais, mais à cœur. Oui. À cœur, le problème, là, c'est que tout le monde, on parle des joueurs et des joueurs, mais s'ils sont tous pas en confiance, excusez-moi, on a pris un coach, on a pris Xavi, pas parce que seulement c'était Xavi, mais c'est parce qu'il a connu cette époque du Barça, on était au top, et que lui, cette mentalité-là, eh ben, il l'incarne aussi. Tu vois?
Ouais, mais...
S'il n'arrive pas à la transmettre, il a, excusez-moi, mais je vais être très, 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 très franc. S'il n'arrive pas à transmettre cette mentalité-là, il n'a rien à faire ici. Honnêtement, parce que.
Je suis d'accord sur ça.
Dis-moi.
Mais en gros, enfin, ça a une part de responsabilité parce que, bah, comme j'ai dit, enfin, t'es l'équipe, t'es l'image du coach, bien évidemment. Maintenant, je pense que le cas de je vais pas non plus trop, enfin, dire que c'est entièrement de sa faute, parce que honnêtement,
non, c'est pas
je peux pas passer outre le fait qu'on a des joueurs, c'est des branleurs. En fait, moi, il y a des trucs, il y a des comportements sur un terrain de football. Je me dis, genre, en mode, on a beau être Xavi, Guardiola ou je sais pas qui, genre, t'as pas à faire ça. Genre, comme j'ai dit, déjà, de 1, la perte de balle, quand je vois des mecs qui sont statiques, ça me rend fou. Et deuxièmement, c'est le nombre d'occasions que tu rates par match. Et contre Valence, c'est nimp. Contre Valence, c'est vraiment nimp. Autant Xavi, comme je dis, on
peut. Même contre Giron.
Oui,
hein.
Même contre Giron, mais genre, en mode, comme je dis, Xavi, tu peux dire ce que tu veux. Face à Valence, mes frères, mais les joueurs, c'est clairement leur défaite, elle est pour eux. Hein. Il n'y a personne d'autre, la défaite, elle est pour eux. Et le problème, c'est que bah, tu perds des points sur points. Est-ce que ramener un nouveau coach pendant 6 mois, parce qu'on sait très bien comment ça marche, hein, on n'est pas débiles, on regarde le football. Quand tu ramènes un nouveau coach, t'as un nouveau souffle qui se met en place pendant 6 mois, les joueurs ils sont beaucoup plus impliqués, machin chouette, etc. Bref, t'as un nouveau cycle. Mais si c'est pour après, 6 mois après, la saison débute l'année prochaine, il ne court pas encore dans nos travers, bah faudra se poser les bonnes questions. Maintenant, est-ce que le coach est pas bon, ou est-ce que c'est nous qui avons un œil beaucoup trop élevé sur la qualité des joueurs qu'on a à l'heure actuelle? Et là aussi la question.
Ah, mais bah tiens, c'est une très bonne question. Tiens, pose-la à Gurvan. Gurvan, qu'est-ce que tu répondras à ces questions-là?
Bah déjà, je suis très content de l'analyse d'Hacker, qui est très vrai et qui rejoint ce que je dis depuis un moment. Tu sais, on discute souvent, Mehdi, on est très souvent en désaccord sur ce sujet, d'ailleurs, tu le sais bien.
Ouais.
Là, je pense que tu as une analyse un peu différente parce que l'émotion est retombée, parce que quand tu es dans la colère... l'analyse est automatiquement différente. Mais Hacker a entièrement raison. Moi, je vois des attitudes inacceptables. Et t'as beau avoir Xavi en coach, dire c'est de la faute de Xavi, je suis désolé. Les joueurs sont pros, ils s'entraînent tous les jours. À un moment donné, un contrôle, une passe, t'es en pro, tu travailles ça tous les jours. C'est devenu... T'as même plus besoin de réfléchir, c'est un automatisme, en fait. Et t'es même plus capable de faire ça. Tu n'es même plus capable de faire l'effort à la perte de balle. Enfin, ok, t'es Xavi, ok, t'es sur le banc, qu'est-ce que tu vas lui dire? Fais l'effort. Mais le mec, s'il a pas envie de faire l'effort, c'est pas de la faute du coach à un moment donné. Xavi fait beaucoup d'erreurs, il n'y a pas de souci, c'est un jeune coach, on le sait, on va pas se répéter. Mais moi, je vois des attitudes mais déplorables, et je suis désolé, les mecs sont pros, ils ont un statut de joueur pro, c'est des choses que je refuse de voir, je refuse d'accepter. Donc après, c'est bien de dire on soutient Xavi en conférence, n'écoutez pas les médias, ok, super, cool. Mais les mecs derrière, en fait, qu'est-ce que vous faites sur le terrain concrètement? Si c'est pour avoir une mentalité de victime à une perte de balle, c'est pas la peine. Si t'es fatigué, il y a des mecs qui ont envie de rentrer derrière, qui sont sur le banc, qui demandent que ça. Il y a des mecs en B, pareil, ils ont qu'une envie, c'est de faire une apparition en équipe première. Donc moi, il y a des attitudes, je peux pas accepter et je peux pas remettre ça sur le dos du coach. Je peux pas tout remettre sur le dos du coach.
Non, après ça, et Xavi n'est pas fautif à 100%. T'es jamais fautif à 100%. Tu vois, tu peux pas. Oui, en tant que coach, tu vas dire oui, j'ai une entière responsabilité de la situation, tout ça. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, vous l'avez très bien souligné, c'est véridique. Il y a des attitudes qui sont inacceptables, des ratés qui sont. C'est du foutage de gueule. Donc après, j'aime bien qu'on me fasse les joueurs énervés, les joueurs qui sont en dépression. Moi, c'est Rafinha qui m'énerve.
Ouais, Rafinha t'énerve, mais regarde, on peut faire le bilan du 11. Tu prends le 11. Bon, Peña, on peut parler de Peña ou Tenas, ouais. Bref, on abrège. Araujo. Araujo, très
bon, pas bon,
mais méconnaissable.
Non. Ouais.
Très bon joueur, mais méconnaissable.
Là, il est pas bon. Là, tu prends sa forme, là, il est pas bon.
Merci. Koundé, excellent défenseur, un des meilleurs défenseurs d'Europe.
Catastrophique.
Un des meilleurs défenseurs d'Europe en début de saison. Il revient de blessure, catastrophique. Baldé, méconnaissable. Il n'arrive pas à reproduire la saison qu'il a fait la saison dernière. Il n'arrive pas à confirmer. Bref, pas de souci. Cancelo, meilleur recrue, exceptionnel. Merci d'être venu. Et j'espère que tu vas rester. Frenkie de Jong, on ouvre le débat. Quand Busquets jouait 6.
En demi-teinte.
Quand Busquets jouait 6. Oh, on n'en peut plus de Busquets, faut dégager, faites jouer De Jong. De Jong joue 6. Qu'est-ce qu'on entend? Faut absolument aller chercher un 6. De Jong n'est pas fait pour jouer 6. Bon, pas de souci. Ok. Cela dit, De Jong, excellent, en costard, meilleur joueur pour moi du début de saison. Derrière, t'as sa blessure qui nous plombe. Voilà. Gundogan, pas mal en ce moment. Début de saison très compliqué. Il a mis du temps à s'adapter, mais pas de souci, c'est un nouveau joueur. Pedri. Bah, Pedri, qu'est-ce que tu mets en avant cette saison? Les blessures, le mec il fait pas les efforts, il n'est pas capable de tenir plus de 60 minutes. Gavi était très très bon, il est ramené son âme de guerrier qu'on adore. Malheureusement, il est blessé, on va plus le revoir. Devant, Rafinha, je vais te laisser le décrire, Mehdi, parce que je sais ce que t'en penses. Moi, je l'ai connu à Rennes, là, il est méconnaissable.
Ah, mais il est catastrophique. Voilà. C'est du foutage. Là, tu vois, je suis énervé parce que je revois ses actions de merde, là. C'est du foutage de gueule. Sur la passe de Ferran, la passe de Déjeuner de Ferran, qui est magnifique.
Magnifique.
Je savais même pas qu'il arrivait à faire ça. Je savais même pas que Ferran pouvait faire ça. Il arrive en face à face, il te fait n'importe quoi. Sur les 5 derniers matchs, il rate combien de face à face?
Aberrant.
5-6 déjà pour un joueur. Déjà pour un joueur, pour avoir 2 face à face en 3 matchs, c'est énorme déjà. Lui, il en a 4-5 et il te le fout. Soit au-dessus, il te tire sur le gardien, il comprend rien du tout. À deux doigts de faire des touches avec le gardien, il comprend rien. Il est débile. Alors nous, on est tombé sur Dembélé et tout ça, mais il est en train de nous faire regretter l'abominable homme qui s'est pas tiré soit du gauche soit du droit. J'ai pas, il est perdu. On est en train de regretter Dembélé. On se dit mais putain, mais Dembélé au moins il arrivait à faire ci, il arrivait à faire ça. Tu te rends compte dans quel état on est? Parce qu'on a un abruti qui s'est pas éliminé, qui s'est pas contrôlé, qui s'est pas tiré. Il a coûté 70 millions.
C'est même pas qu'il sait pas le faire, c'est qu'il ose même plus. Et quand il ose, c'est quand il est vraiment obligé. Que c'est pas son truc d'aller finir des actions, ça on le sait. Mais moi, en fait, ce qui me dérange avec ce joueur, c'est déjà, il ose plus tirer. C'est, en tout cas, quand il est dans sa position naturelle, c'est-à-dire sur le côté droit, il rentre sur son gauche, il n'ose plus tirer. Ou alors, quand il est excentré, il envoie à parpaing sur le gardien, je comprends pas. Et surtout, le truc qui me dérange de plus, c'est même pas ça. Parce qu'on a Robert qui est censé finir. Hein? Mais il y a un truc
bon,
qui
Robert.
Me dérange avec Rafinha qui me fait mal. Il délivre même plus. Il reçoit le ballon, il va même plus tenter un contre un. Il le fait plus. Il le fait vraiment quand il est obligé, puisque ça dédouble pas dans son dos. Et voilà. Mais la plupart du temps, il va tenter une... En fait, je sais pas si c'est Xavi qui lui demande ça, parce que t'as parlé de Dembélé, mais Dembélé, Xavi, je lui disais, va dribbler. Donc, je sais pas, mais oui, je comprends pas en fait que.
Je suis pas convaincu, Médard, parce que t'as Lamine Yamal qui est un minot qui va passer le brevet là,
ouais, voilà. Donc,
cette année limite, qui rentre, il ne cesse, il fait que.
Ouais, mais du coup, peut-être que Xavi, il aime pas la qualité de dribble de Rafinha. C'est vrai que c'est beaucoup fait éteindre l'année dernière.
Ah, je pense pas.
Mais un coach, excuse-moi, Médard, un coach du Barça qui va dire un joueur, un ailier, ne va pas dribbler parce que j'aime pas ta qualité de dribble.
Ah ouais, mais regarde, non, mais aussi, j'ai envie de te dire, Xavi, tu vois, c'est un élève de Guardiola. J'ai envie de te dire, peut-être qu'il veut tenter de faire une Mahrez, sauf qu'il n'est pas Mahrez qu'il veut. Il ressemble plus à Ziyech qui était Finito à Chelsea, ouais, tu vois quoi.
Ouais, mais tu regardes au final, Mehdi, si t'analyses bien, je ne vois jamais les trois de devant combinés. Jamais. Je vois jamais Rafinha chercher Robert.
Parce que t'as, frère, t'as Lewandowski qui se prend pour un défenseur central, t'as Joao Félix, il y a un truc on en parle pas, mais c'est ce flanc gauche. Il va falloir arrêter de me mettre des intérieurs de partout. Soit tu mets un intérieur à droite, soit tu mets un intérieur à gauche. Mais au bout d'un moment, tu vois sur les phases de transition offensive.
Mais justement,
Baldé, on le pousse. Non, mais je suis juste sur ça. Baldé, on le pousse, on a l'impression qu'il est essoufflé, Baldé, au bout d'un moment. Mais frère, à gauche, il y a sur les contre-attaques qu'on a des fois, tu n'as personne à gauche. Pas personne à gauche. Alors oui, je veux bien que ça soit intéressant d'avoir un milieu plus dense, un milieu un peu plus compact, ok, en faisant cet intérieur-là. Mais au bout d'un moment, les frères, le Barça, quand on reparle du grand Barça, c'était des joueurs qui étaient bien sur les flancs, tu vois, ça partait. Tu vois ce que je veux dire?
C'est même pas que sur les contre-attaques, je te parle même sur le jeu de position. Tes ailiers, ils collaient la ligne à la base. Dans la base d'un jeu de position, si tu joues en 4-3-3, tes ailiers doivent coller la ligne. Pourquoi est-ce que t'as un ailier qui joue 10? Bon. Il est bon, donc en vrai, tu peux pas lui, tu vois. Mais t'as un Joao Félix. Limite, je me demande si actuellement, tu peux pas le repositionner à la place de Robert, là, tout de suite, là. Si tu prends pas en
compte. Bien sûr, exactement.
Parce que Gurvan, il a dit un truc. Non, c'est Hacker, je sais plus. Il y en a un de vous deux qui a dit un truc intéressant. Quel joueur est à son niveau? Parce que je vous en parlais la dernière fois. Si tu prends individuellement les noms, Ah oui, bah, ah, le Barça, les meilleures équipes du monde. Mais si tu prends le niveau actuel des joueurs individuellement, mais même Gérone, qu'est-ce qu'on a de plus qu'eux en vrai? Tu regardes leur attaque, elle est bien mieux que la nôtre, elle est plus en forme, ils sont plus en confiance. Tu regardes leurs latéraux, ils sont meilleurs, bon, pas que Cancelo. Mais je veux dire, quand tu vois le match qu'il fait, c'est Miguel, c'est ça? Ouais. Mmh. Le match qu'il fait ouais, contre nous, mais Baldé, il n'est pas capable de faire ça. Hein. Il est incapable de faire ça. Quand tu vois de l'autre côté. Comment il s'appelle, Yann Couteau. Désolé, mais bon, Cancelo, ouais, pourquoi pas. Mais même Cancelo, il répète pas autant les efforts, tu vois. Genre, ils ont des joueurs qui sont prêts. Je parle de Gérone parce que c'est les premiers, mais au-delà de ça, qui est considéré comme un petit, tu vois. C'est des joueurs qu'on, ils ont, c'est pas des noms, mais actuellement, individuellement, collectivement, physiquement, mentalement, tout ce que tu veux, ils nous explosent. Et le 4-2, il est logique, comprends.
Tu vois. Mais ça, c'est pas. Ouais, mais ça, c'est
normal. C'est pas mais normal, mais faut arrêter de parler des noms actuellement.
Derrière ça, après, voilà, pour Gérone, il y a aussi l'idée du coach. Parce que moi, ce que je reproche à Xavi, c'est qu'il n'y a pas de patte de Xavi. Il n'y a pas de patte, il n'y a rien. Tu vois rien de Xavi. Tu vois pas de Barça, tu dis, ah, oh, c'est Barça de Xavi, mmh. ça se voit, je reconnais le schéma de jeu. Bah, tu vois.
Ouais, enfin, Xavi, le. Ah, non, mais Xavi, moi, je l'ai comme dit. En fait, moi, il y a plusieurs problèmes par rapport à ça. C'est que. En fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il s'est juste pris une gifle dans le sens où, en fait, quand il arrive au Barça, il a eu raison de le faire, hein, puisque je pense qu'il avait cette optique-là. C'était qu'en gros, genre, pour lui, en mode, le Barça devait jouer de manière ultra offensive, de machin. En gros, le Barça qu'il a connu en 2011, machin, souhaite. La dernière fois, j'en parlais, j'ai dit qu'en gros, moi, là où Xavi, il a l'air de se tromper, et je crois qu'il ne se rend pas compte, c'est que l'équipe qu'il a à l'heure actuelle, et il l'a bien fait notamment lors de ses premiers mois, lorsqu'il arrive au Barça, c'est que l'effectif qu'il a à l'heure actuelle, les gars, l'effectif qu'on a, c'est un effectif de PL. Quand j'ai effectif de PL, c'est dans le sens où, genre, en fait, je pense qu'il est borné dans l'ultra-possession de vouloir dominer son adversaire de A à Z. Et dans le football actuel, c'est plus possible, les frères. Et je pense qu'il y en a, ils ne se rendent pas compte. Genre, même City, des fois, fait des phases où ils sont en train de défendre en bloc. C'est-à-dire à quel point, les gars, il n'y a plus d'équipe qui domine autant qu'à l'époque. C'est terminé tout ça. Et moi, comme j'ai dit, c'est que, genre, il y a des phases, des matchs de l'année dernière, ou même début de saison l'année dernière, hein, quand on débute, quand on gagne, je crois, 4-0 à la Sociedad, etc. C'est que moi, déjà, il y a un truc qui m'exaspère avec ce Barça-là, où à l'époque, on était archi-clinique et on faisait mal à tout le monde, c'est qu'on avait un jeu hybride. Quand je parle de jeu hybride, c'est que, j'avais rarement vu un Barça aussi fort en transition rapide. Genre, à chaque action, presque de transition, une fois sur deux, c'était but. Parce que c'était très bien que t'avais du danger partout, parce que t'avais des mecs qui allaient à 2000 à l'heure dès qu'on avait récupéré la balle, parce que tout le monde faisait des appels intéressants. Maintenant, ce Barça-là, à chaque fois qu'il y a une transition, j'espère finalement qu'il va rien se passer. Et moi, l'effectif qu'elle a là que Xavi, c'est que moi, où là, je suis d'accord avec vous, c'est que par contre, sur les côtés, t'as un gros problème. Parce que t'as deux mecs qui rentrent à l'intérieur. T'en as aucun qui prend la ligne. Maintenant, est-ce que ça passe aussi par un changement de système où tu passes sur un 3-5-2? Je sais pas. Mais en tout cas, tu peux.
Ah, mais que ce soit clair, alors.
Tu peux clairement pas, à l'heure où on parle, jouer entre 4-3, c'est impossible. À moins que tu dis, cet été, cet hiver, tu ramènes un mec qui a collé la ligne et qui est déstabilisateur. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où on parle. Le 4-3 avec un Félix et Rafinha sur les côtés, c'est impossible.
Ouais, mais c'est intéressant ce que tu as dit à cœur, tu vois, par rapport au début de Xavi, par rapport à la transition, parce que il avait aussi un effectif capable de jouer comme ça. Et peut-être que même s'il s'appelle Xavi Hernandez, c'est et qu'il prône, il essaye en tout cas, enfin, on attend de lui qu'il prône un jeu style Barça, etc. Peut-être que c'est pas du tout justement le jeu qui lui convient, parce que là où on a été les meilleurs, c'était comme tu l'as dit, en jouant assez avec un jeu assez hybride, mais parfois aussi dans la transition, et c'est là où on était le plus imprévisible et là où on était le plus intéressant, et on mettait des scores à beaucoup d'équipes. Donc peut-être que c'est ça. Maintenant, actuellement, il n'a pas du tout un effectif pour jouer comme ça. Donc je ne sais pas si peut-être il veut un effectif pour jouer ce jeu-là, mais il ne l'a pas actuellement. C'est pas avec Pedri en 10, c'est pas avec Rafinha, c'est pas avec voilà, avec ces joueurs-là que tu peux jouer en transition. Après, bon, écoute, je ne sais pas ce que veut Xavi. Est-ce qu'il veut ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait ce qu'il veut?
Oh, Médard, c'est une dinguerie. Tu viens de le dire, inconsciemment, tu l'as dit, je ne me suis même pas rendu compte. Je ne sais pas ce que veut Xavi. Ça fait 2 ans qu'il est là.
Il n'y a pas de patte, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il y a une patte, mais un match sur 5, 6, 10, tu vois. Mais il n'y a pas une patte.
C'est ça. Il arrive toujours pas à trouver cette régularité dans les performances.
La seule fois où il l'a eu, c'est à cœur qu'on a parlé, c'est quand on mettait des 4-1, 4-0 à tout le monde, quand sa première saison où il fait remonter le Barça en arrivant, avec Aubameyang, ouais, avec Adama, avec Ferran qui arrive, avec Dani Alves, avec des joueurs comme ça.
Alors, Alors, est-ce que c'est pas aussi comme Hacker disait, le phénomène des 6 mois, des 6 premiers mois de l'entraîneur?
Non, pas tant que ça.
Parce que en fait,
au bout d'un moment, peut-être non, se poser la question, les frères.
Qu'est-ce qu'il avait à perdre quand il est arrivé au final? Tu peux pas comparer le Barça de Xavi lorsqu'il est arrivé avec les attentes, où au final on attendait juste un changement, reprendre un petit peu de plaisir. En fait, on était là limite sans attente, juste on veut reprendre du plaisir, gagner, mais on visait pas un objectif bien précis. Là aujourd'hui, t'as un président qui te dit ouvertement on est de retour, c'est le grand Barça. Donc les attentes, elles ont augmenté, c'est légitime, c'est tout à fait normal. Le recrutement fait que derrière t'as des attentes en lien avec ton recrutement. Donc derrière t'as un coach qui, même s'il refuse de l'admettre, se met la pression. Ça se voit dans sa manière de coacher, qui joue clairement avec la pression. Donc derrière, tu deviens pragmatique, tu deviens ennuyant, tu cherches en permanence, mais...
Mais ça, j'arrive pas à entendre. Ça. T'es au Barça, t'as de la pression. Il y a pas de... Mais si, les frères. Arrêtez de me dire c'est pas là. On l'attend. On est arrivé, il a joué avec l'équipe, avec Adama Traoré et tout ça. Et Joao Félix, il n'arrive pas à combiner, il n'arrive pas à faire des trucs.
C'est pas ça que je te dis.
Non, mais bien sûr que t'as...
C'est ce que j'entends, moi.
Mais justement...
C'est pas la même.
Ce qu'il est en train de dire. En fait, ce qu'il est justement en train de dire, c'est que t'as pas la même pression, dans le sens où, bien sûr que c'est le Barça, t'as la pression. Mais quand tu reprends un Barça qui est 9e, qui n'a rien à jouer... Qui est en Europa League, quasiment, hein, lui, il les reprend, ils ont un match contre le Bayern à jouer, c'est fini, frère. Quand tu reprends un Barça comme ça, tu peux que faire mieux, en fait. Tu peux pas faire pire que ce qui s'est passé déjà avec Coman, parce que t'as pas un recrutement. Enfin, Coman, il a toutes les. Voilà, il y a tout ce qui s'est passé et tout, le groupe qu'il avait lâché, enfin, beaucoup de choses. Tu peux pas faire pire que ça. Si tu fais pire, vraiment, voilà. Donc, en fait, c'est pas la même pression que. Quand t'as donc, enfin ton effectif, d'accord. Que les gens ils t'attendent.
D'accord,
combien de fois on a dit mais
donc,
dans les podcasts
donc, de ce fait-là.
Ça y est, du lâche coup, à vie, on l'attend. Là, on l'attend. C'est la saison. Coup. Et si cette saison ne la réussit pas, c'est fini.
Quoi tu vois. Non, c'est... Non.
Pas du tout.
Ah, mais si,
là, là, moi, qu'on soit clair, la Liga, les gars...
On a fait...
Voilà, je vois pas le Real lâcher 7 points. Voilà, enfin bref. Je pense pas que.
Ouais, mais si l'équipe revient en forme, comme moi, je pense toujours à cette remontada qu'avait fait Coman. Si avec Coman, on a réussi à la faire,
En tout cas, voilà.
C'est
si on la gagne,
déclic, c'est tu vois. Mais moi, cette question de pression, de me dire, oui, pour moi, ça, c'est se cacher derrière le vrai problème. Ouais, vas-y.
Non, la pression du Barça. Vas-y, mais j'ai fini.
Le vrai problème pour moi, c'est pas comme t'as évoqué le truc des 6 mois. C'est pas un coach de 6 mois ou je sais pas quoi. C'est juste un jeune coach. C'est pas en mode excuse. Hein. Il a le problème de beaucoup de jeunes coachs que d'autres n'ont pas. Style Nagelsmann, style Xabi Alonso, style Guardiola à l'époque. Ça, ils l'ont pas eux. Lui, il a un problème de jeune coach. Il a un problème de pression. Il a un problème de pression et ça, malheureusement, à Barcelone, ça paye cash.
C'est quoi la conclusion finale? Donc, il se casse.
La conclusion, j'allais y venir, c'est que pour moi, il remplit pas, comme tu l'as dit. Tu as posé la question, est-ce qu'il donne satisfaction? Non. Dans le jeu, non. Dans les espérances, non. La Liga, pour moi, on peut y croire, évidemment, parce qu'on a déjà fait des choses exceptionnelles, mais ça semble très compliqué. La Champions League, bon, entre nous, j'y crois pas des masses. Si on le fait, là, mais je me mets tout nu. Mais bon, ça va pas arriver. Enfin, je pense vraiment pas. Donc, clairement, il fait une saison blanche. Même Coupe du Roi, c'est pas suffisant. Tu sors d'une Liga, etc. Tu fais une Coupe du Roi, on s'en fout de la Coupe du Roi. Voilà.
Donc,
désolé, bye bye. Il ne voit pas sa vie rester en fin de saison.
Non, mais. T'as vu, moi, il y a un truc où je suis pas trop d'accord avec Mehdi, enfin, pas Mehdi, mais bref, l'autre Mehdi. Quand tu me sous-estimes, en fait, je crois que vous vous rendez pas compte sur l'historique des entraîneurs au Barça depuis 2000, les frères, ils ne tiennent pas plus de 3 ans. Et en fait, je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point, et encore plus, depuis quand je l'ai passé, parce que les attentes et la pression qu'il y a eu, elle est juste monstrueuse, en fait. Et en fait, là où... En fait, c'est limite... Enfin, c'est pas un mal, hein, bien évidemment, mais c'est qu'en fait, que Guardiola a tellement mis genre le club à un niveau extraordinaire, et ce qui est logique derrière ce qui en découle, c'est que tu attends des trucs beaucoup plus élevés, et c'est tout à fait normal. Et on parle d'un club qui a eu, facile, 2 équipes qui se calent dans le top 5 des meilleures équipes de l'histoire. On parle d'un club qui a connu un 11 ou même des joueurs légendaires qui viennent de la maison. Quel club aujourd'hui peut se cantonner de se dire
on a eu des mecs qui ont été chez nous, qu'on a formés chez nous, et qui ont formé la meilleure équipe de l'histoire.
Qui peut, là, il y en a combien des mecs formés chez nous?
Exactement. Et moi, là où je l'ai dit, c'est qu'en fait, là où Xavi s'est mis le doigt dans l'œil, hein, et c'est tout à fait logique, c'est qu'à un moment donné, hey, ils sortent d'une Liga, le Barça a été deux saisons en Europa League, le Barça a connu des complications économiques, des machins, etc. À un moment donné, et je comprends les gens qui commencent à lui taper dessus, et j'en fais partie aussi, c'est que, hey, on a la troisième saison. Top. Genre, moi, les gens qui me parlent d'Arteta, des machins chouettes, là, je remets les choses dans le contexte. Arteta, dès qu'il arrive à Arsenal, dès qu'il arrive, hein, un titre, déjà, pour commencer. Il gagne un titre face à City, il le gagne. Qu'on le veuille ou non, il le gagne. Ensuite, il a son temps, il a son mercato, il a la même enveloppe, même si c'est différent, parce qu'en PL, t'as plus de sous. Il tâtonne, à la fin, son projet prend forme. Maintenant, est-ce que les attentes qu'il avait à Arsenal et au Barça, c'est les mêmes? Absolument pas. Parce que déjà, de 1, en PL, c'est très bien que les cadres, il y en a beaucoup trop. Et deuxièmement, c'est que les attentes que tu as en championnat en Ligue des Champions ne sont pas les mêmes. Et on parle d'un club qui, Arsenal, depuis les 10 dernières années, c'était compliqué. Le Barça, on parle d'un club qui, là, il y a 4 ans, qu'on le, même si on connaît l'épisode qui s'est passé à Anfield, est en demi-finale de Ligue des Champions. On parle d'un club qui, de 2009 à 2019, a connu au moins 5-6 fois les demi-finales. On parle d'un club qui clairement, reconnu dans le monde entier. Et moi, honnêtement, je pense que Xavi, et je pense qu'il y a moi qui me donne tort, hein, moi, tant que le Barça ne va pas performer plus de 2 mois d'affilée en étant très bon, je n'y croirais pas. Et clairement, je pense que Xavi n'a pas les épaules pour coacher un tel club. Et le seul coach qui, pour moi, à l'heure actuelle, est capable de le faire, parce qu'il y a, pour moi, un vestiaire qui est très sous-coté en termes de pression et en termes de toxicité, et avoir fait autant de choses, à mes yeux, c'est énorme pour un jeune coach comme ça. C'est que moi, je pense que le seul mec qui a les épaules pour ça, et qui n'est pas espagnol, bien évidemment,
ouais, c'est Griezmann. Anti flic, ça ne me dérangerait pas non plus, hein, personnellement.
Oh non. Oh non, anti flic, je prends. Hein. Je préfère Nagelsmann, ouais, en termes de jeu. Ça correspond plus à ce qu'on est capable de donner.
Le
mais
Bayern, ah,
mais frère, dans tous les
frère,
cas...
Je ne sais pas comment ça jouait le Bayern dans Siflin, frère.
Oh. Ouais, mais c'était beaucoup plus dans l'intensité, tu vois. Plus que, c'était plus du Bayern, en fait, que Nagelsmann, qui a ramené quand même un certain jeu de possession. Évidemment, tu vois, de toute façon, c'est le Bayern, ils ont le ballon. Mais dans tous les cas, supposons qu'il y ait... Je fais juste une intervention sur ça. Supposons qu'il y ait un de ces deux coachs. Je t'assure que la moitié de l'effectif, ils vivent. Oui. Ils n'ont pas les épaules. Et je suis gentil quand je dis la moitié. Les Serge Robert et tout ça, là, ouais, les Roméo, tout mais, ça, tu ne les vois plus. Hein. Et même Lewandowski.
Mais pareil hein, aussi. Si Nagelsmann fait les deux saisons que Xavi a fait, il vire aussi. Tu vois, c'est, tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est que Xavi aussi,
bien
il a tout ça, mais il a un soutien que beaucoup de coachs n'ont pas de leur board. Tu vois ce que je veux bien dire sûr. Donc, même sur les sorties à la presse, tout ça, sur tout ce qu'on entend, certes, il y a okay, beaucoup de choses qui sont contre Barça, mais en interne, tu sens qu'il y a quand même un noyau dur qui se dit, on va se tenir coûte que coûte. De toute façon, on est là, on est ici, tu vois, on va pas changer de coach, on reste avec lui, tu vois.
Même nous, supporters. Hein.
Ouais, mais supporters, au bout d'un moment, excuse-moi, mais quand tu entends beaucoup de supporters là, et je peux les comprendre, on se sent quand même roulé au bout d'un moment. C'est que, on entend dire l'équipe, la phrase que Xavi a lancée, qu'il aurait jamais dû dire, c'est l'équipe est en construction. T'as pas à dire ça quand ça fait 2 ans et demi que t'es là,
ouais,
quand ça fait 2 ans et demi que nous, 4 ans nous, hein, qu'on mange de la merde, qu'on s'est pris des 8-2, des 4-0, et on s'est fait, on a vécu des années cataclysmiques. Je pense qu'on va même pas vivre, j'espère pas du tout vivre encore des années comme ça à l'avenir. Tu peux pas venir comme ça après avoir posé des 100 millions sur le mercato, venir te dire on est en construction, ça n'existe pas. Là, t'as plus de construction. Là, c'est soit tu montres que t'es capable, soit tu montres pas que t'es capable. Et si tu montres pas, s'il te plaît, laisse la place aux autres. Et là, je pense que Xavi réalise sur ça parce qu'il le dit direct. Il dit, si moi je gagne pas, je sais que je pars de moi-même.
Mais moi, dans tous les cas, je vous parle très honnêtement. Même si le Barça sort en quart ou en demi ou en machin, bref, dans les circonstances, et que, vas-y, même si on vient gagner qu'une Liga derrière ou quoi que ce soit, moi, je vous parle très honnêtement, Xavi ne restera pas à la fin de saison. Genre en mode, à mes yeux, hein. Il faut le répéter aussi, parce que certains ont souvent tendance à l'oublier. Déjà, il y a deux choses qui font que déjà que Xavi est encore là. Un, on n'a pas de tal, pas de sous. Là où c'est l'FPS, ça casse les couilles, on est pensé qu'on n'a pas de sous. Et ensuite, Xavi, de base, n'est vraiment pas le coach voulu par Laporta. Hein. Et il faut remettre ça dans le contexte, à la base des bases, lorsque Laporta il arrive, le mec qui veut, en plus qui plus est, il a peut-être l'opportunité de le récupérer dès cet été. C'est Nagelsmann, gros.
C'est Nagelsmann.
Dès qu'il arrive, il le veut directement. Ce qu'il se rend compte, finalement, c'est pas possible niveau économique et qu'il avait déjà signé avec le Bayern. Mais à la base des bases, la tête de son projet, c'était Nagelsmann. Et moi, je vous dis que cet été, une fois que l'Euro sera terminé, que Xavi J'espère, c'est à moi que Xavi fasse un miracle et qu'on fasse un doublé ou un triplé ou un machin. Xavi, pour moi, même s'il gagne Liga, il ne restera pas. Je ne vois même pas dans quel monde il reste. Donc voilà.
Après, tu vois, souvent ces dernières années, ce que ces dernières années nous disent de la deuxième partie de saison du Barça, c'est qu'elle est bonne. Enfin, à part l'année dernière où tu as eu beaucoup de blessés l'année dernière, tu vois, la deuxième partie de saison sous Coman a été super. La deuxième partie de saison après, quand Xavi est arrivé, était super aussi. Tu vois, même l'année dernière, en vrai, bon, tu gagnes la super coupe, tu fais quand même certaines perfs et tout ça, avec les blessures, tu vois. Donc, la deuxième partie de saison, moi, je l'attends vraiment et je veux un renouveau de ce Barça-là, tu vois. Et ça va commencer par mettre des buts. Parce que c'est vrai qu'on tape sur Xavi, moi, le premier. Il faut également taper sur les joueurs parce que c'est l'équipe en Europe qui se crée le plus d'occasions aussi. Et c'est ça où j'arrive pas à me positionner clairement parce que j'ai la mort contre Xavi, mais je me dis d'un côté, putain, mais si toutes les occasions qu'on marque, au moins la moitié, parce que tu vas pas marquer toutes, t'arrives à marquer la moitié, mais t'es pas quatrième, t'es même peut-être premier de Liga, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que tu prends le match contre Gérone, tu prends là contre Valence, tu prends le Real, tous ceux qu'on a affrontés qui sont devant nous. Et gros, on est devant eux si on met nos occasions, mais enfin au moins la moitié, comme tu as dit. Moi, c'est ça qui me fait un petit peu espérer, entre guillemets. Peut-être que je suis optimiste comme d'hab, mais c'est que moi j'ai beaucoup plus de mal avec une équipe qui se crée pas d'occasion qu'une équipe qui loupe, tu vois. Parce que les louper, c'est une question de confiance. On a un tueur devant normalement, c'est lui qui est pas, enfin, il est après sur la faute du coach ou pas, mais on a un mec qui est censé être un tueur devant, qui est censé mettre des 50 buts dans l'année. Enfin, il l'a fait, il a mis des 60 buts, 70 buts. C'est... Mais on se rend pas compte du joueur qu'on est censé avoir devant. Les occasions, on les a. C'est à lui de les finir. Ça, c'est pas une question de coach pour moi, tu vois. Comme il a dit, Gürman, c'est pas Lewandowski, tout ça, c'est de la confiance. Après, c'est pas. Même si ça peut être un peu à cause du coach et tout, ou du jeu et tout, mais dans tous les cas, les occasions, ah ouais, il les a. Il a 3-4 occasions par match, Lewandowski. Normalement, c'est 2 buts, 3 buts à chaque fois. Et il n'en met pas un. Il a mis 3 buts sur ses 12 derniers matchs. C'est Lewandowski. Putain, c'est le meilleur buteur, à part Messi, Ronaldo, évidemment. C'est le meilleur buteur de ces 15 dernières années. Pas en Champions League, tout court. Il a marqué plus que Benzema, oui, ouais, il a marqué plus que Suarez. Il a marqué plus qu'Aguero, Ibrahimovic. Non, je parle même pas, je parle en tout. Il a marqué plus que. C'est des mecs quand même qu'on met devant lui tout le temps. Mais c'est un mec qui marque, il est là pour ça. C'est un buteur. Pourquoi il marque pas, là? Tu vois? 3 buts en 12 matchs. Il avait jamais fait 3 matchs sans marquer de sa carrière.
Excuse-moi, moi, là aussi, Xavi aussi a sa responsabilité, c'est qu'au bout d'un moment, frère, sors-le, Lewandowski. Il faut que tu sortes.
Mais il l'a sorti un petit peu en ce début de saison, mais pas. Il y a des matchs où il ne doit pas jouer.
Il
y
a
des matchs
où il ne doit pas jouer. Il a fait sortir une fois, deux fois, oui, pour montrer qu'il est là, tu vois. Mais le petit...
Non, je pense qu'il veut donner confiance, moi.
Je veux dire, le petit Margouillou, ça me dérange pas que tu le fasses rentrer à la 75e, tu vois. Ça dérange pas.
Il a joué deux bouts de match, il a marqué deux fois.
Enfin, on est là. Même, tu sors Lewandowski.
Ça se trouve, on a un maxi.
Exactement. Et puis même, regarde, même Joao Félix, c'est quoi ce changement tout le temps à la 70e minute? Toujours, il le sort, lui, à la 70e minute. Mais sors Lewandowski et tente Joao Félix en faux neuf. Qu'est-ce que t'as à perdre?
Moi, je pense que notre jeu, il se porterait beaucoup mieux avec Félix en faux neuf parce que lui, c'est... Il fait ce que Lewandowski, il essaye de faire. Il sait pas le faire. Jouer en une touche, c'est trop surtout, dur pour lui. Il veut se prouver qu'il est bon balle au pied.
Tu vois cette zone un peu centrale où en face offensive, où t'as Frenkie, t'as Pedri, t'as Gundogan, t'as Félix, t'as Lewandowski, puis t'as l'autre abruti de Rafinha qui rentre aussi dans l'eau. Tu penses que tu peux même un peu libérer un peu plus d'espace, tu vois, parce qu'ils sont tous là, ils sont tous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'enlèves Lewandowski, tu mets Joao Félix. Okay. Tu tentes. De toute façon, t'as rien à perdre, t'es quatrième dans la foot, de toute façon.
Puis t'as Roquet, qui arrive aussi, faut voir ce qu'il donne.
Ouais.
Moi, Roquet. Non, mais évidemment, je sais pas ce qu'il donne encore, mais faudrait lui donner sa chance bien vite.
Excusez-moi. Gurvan.
Non, mais pas
t'écoute. Tu m'as pas, t'es en train de dormir, là. Papy se fait tard.
Parce que l'aspect, parce que si tu me parles de Lewandowski, je peux parler de Lewandowski avec Médard. Je le rejoins certes. Après, faut remettre les choses aussi dans le contexte. C'était en Bundesliga où on sait très bien que c'est très ouvert défensivement. C'est beaucoup plus simple. J'ai beaucoup plus de respect pour un mec qui va stater en PL, si tu veux, qu'un mec qui va stater en Bundesliga. Quand je voyais sur le début de saison qui était le meilleur buteur
comme Harry Kane
de Bundesliga, et quand je vois ce qu'il faisait à Rennes, excuse-moi,
Guirassy,
tu vois, maintenant il y a beaucoup de respect pour Robert Lewandowski, mais je veux dire, La patte Xavi, on a dit tout à l'heure, on la sent pas. Au final, on débat, on se dit, on est l'équipe en Europe qui se procure le plus d'occasions. Donc, c'est qu'il y a quand même une patte du coach, un minimum.
Dans le jeu, il y a...
Non, dans le jeu, je suis entièrement d'accord. Je ne prends pas de plaisir si tu me demandes. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Hacker tout à l'heure, quand il disait qu'en transition, on n'était pas dangereux, moi, je pense totalement l'inverse. Le match contre Valence, on a encore la preuve. Et je disais ça avec Médard pendant le match. Je disais, regarde ce que Médard, il me disait à chaque fois. Putain, on joue pas en transition rapide. Et je dis, mais regarde, dès qu'on joue en transition rapide, alors certes, on marque pas, mais t'as une occasion chaude. Tu te procures une occasion chaude. Donc moi, je pense que c'est... Et au début, le pire, ce qu'on disait de Xavi quand il est arrivé, c'est qu'il arrivait à alterner jeu de possession et jeu de transition. On retrouvait un peu du Luis Enrique, si tu veux. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec un coach qui a la pression, des joueurs qui sont pas en confiance, un coach qui, on va pas se mentir, n'est pas en confiance non plus. Robert Lewandowski, tu me dis, tu veux le faire sortir. Mehdi, tu me dis, l'autre fois, tu critiquais Xavi parce que tu disais, oui, c'est de la faute de Xavi, si Robert n'est pas bon, faut qu'il le remette en confiance. Bah oui, mais si tu veux remettre en confiance en attaquant, t'es obligé de le faire jouer et de le faire enchaîner des minutes, Mehdi.
Oui, mais tu veux pas, excuse-moi, depuis septembre, tu peux au moins sortir à la 70e, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, tu as donné la confiance septembre, octobre, novembre, on est en décembre, il arrive toujours pas à cadrer une frappe. Faut aller se faire enculer aussi.
On parle d'un attaquant, c'est compliqué. Il peut marquer à la 92e, ça va leur donner un pic de confiance. Derrière, au match suivant, il va marquer à la 15e. C'est toujours délicat, un attaquant, d'autant plus un mec.
Ouais, mais donc on sort pas. Il a l'immunité, on sort pas.
Moi, je serai coach. Oui. Robert, il commence même pas titulaire.
Là, je pense qu'il peut se remettre en question justement comme ça.
C'est terminé. Moi, c'est terminé.
Mais attends.
Non, mais oui, mais ça
c'est un foot, moi.
Ben, je remets en question, non, mais en Arabie Saoudite, j'en ai rien à foutre. Mais
quand tu vois que, les tentatives de confiance ne marchent pas, quand tu vois que tu forces à le mettre et que ça ne marche pas, un petit tour sur le banc, je pense que ça peut lui mettre un coup en mode, hé, gros, c'est pas le club med. Oui.
Je pense que Xavi se dit, ça reste Robert Lewandowski, il peut marquer à tout moment dans un match où c'est compliqué. Il nous a sauvé déjà cette saison.
Ouais, mais donc Xavi, il a peur.
Donc Xavi a peur.
Bien sûr qu'il a peur.
On y vient.
Une fois de plus, comme je te dis, quand il est arrivé, il jouait complètement libéré. Le discours avec les joueurs, c'était les gars. Moi, ma seule attente, c'est que vous preniez du plaisir. Jouez, prenez du plaisir. Tu marquais 4 buts, tranquille. Aujourd'hui, c'est les gars, on doit gagner.
Ouais, c'est ça. Mais ce qui a toujours marché avec même Guardiola, par exemple, qui est l'exemple parfait, c'est que justement, tes joueurs, évidemment, ils ont des consignes, mais ils jouent libérés. Tiens, fais ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est que, pas grave si on va prendre 3 buts, mais on va leur en mettre 5, tu vois. Xavi, lui, c'est, venez, on fait 1-0 et après, tu vois, il commence à trembler. Quand on dit que c'est un coach frileux, c'est le pôle Nord. C'est un coach frileux.
Ah oui.
C'est un coach qui a peur. Il joue avec la peur. Et moi, un coach qui joue avec la peur, il n'a rien à faire à Barcelone.
Mais une fois de plus, on revient à ce que je disais avant son arrivée. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Moi, je n'étais pas pour l'arrivée de Xavi à ce moment précis de l'histoire du club. Pour moi, on allait cramer une carte joker. Et aujourd'hui, tous les discours... Et j'ai du mal à les entendre aujourd'hui parce que c'est un truc que je disais déjà à l'époque. Je n'étais pas pour son arrivée à ce moment précis de notre état de santé, pour moi, c'était pas le coach adapté. J'ai eu tort sur une chose, Médard me le disait, j'avais des doutes sur ça, il me disait il arrivera à les sortir. Et je sais pas, au final, il l'a fait. Je me suis dit, putain, grosse personnalité, on y va. Mais derrière, tu vois que non, c'est frileux, c'est pragmatique, c'est un jeune coach, et aujourd'hui, la situation au club, elle est plus que délicate.
Excuse-moi, si je peux me permettre, bon, même c'est pas de même club, hein. Xabi Alonso, c'est un jeune coach aussi.
J'allais le dire. Ouais, mais justement, Xabi Alonso,
il a l'air poussé, mon pote.
C'est ça, la différence.
Oui, d'accord. Est-ce que
je pense que... Excuse-moi, juste quand Gurvan, il a dit Xavi, c'est une carte joker pour l'avenir. Eh ben moi, je pense que justement, il a totalement raison et je l'ai toujours rejoint là-dessus. Pour moi, Xavi, évidemment, j'étais un petit peu hypé parce que c'est Xavi, c'est un de mes joueurs préférés et tout, mais je me suis toujours dit, il a une expérience à Al-Sadd. Mais il n'a pas une vraie expérience en Europe. J'aurais aimé qu'il prenne une autre équipe, qu'il se teste dans une équipe avec moins de pression, qu'il monte les échelons petit à petit. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Xavi qu'il doit aller au Barça. Malheureusement, le contexte a fait que...
Il s'appelle comment ?
Xavi.
Xavi Hernández, creo.
Xavi.
C'est pas parce qu'il s'appelle Xavi que genre c'est il doit... Tu vois, mais le contexte a fait qu'on était en Hesse, il fallait un coach, et Coman, ce n'était pas possible. On allait limite être relégué avec lui. Tu vois, donc en fait... Le problème, c'est ça, c'est qu'il n'a pas gravi les échelons. Xabi Alonso, c'est quoi sa pression à Leverkusen ? avec tout le respect, hein. C'est pas un club dans lequel il a joué. Il a... C'est pas un club avec une, c'est pas un grand club historique en Europe. C'est pas, voilà, je veux dire, c'est pas une légende de ce club. Il a pas joué là-bas, tu vois. Enfin, il a tout le temps préparé ce qu'il. Non, mais c'est un grand club d'Allemagne, mais je veux dire, en Europe, c'est pas le Barça, quoi.
Oui, bien sûr.
Je veux dire, il a tout le temps de se préparer, et je pense que, je sais pas si Xavi aurait pu faire ça avec Leverkusen, tu vois. Mais on le sait pas. Après, parce que Xavi, il a déjà montré certaines choses, tu vois, qu'il est capable de faire tactiquement.
Xavi aussi, là où tu dis que c'est aussi frileux, bah dès le début, pourquoi tu vas entraîner Al-Sadd?
Non, bien sûr, mais après, ça, c'est parce qu'il est, tu connais, c'était beaucoup d'argent, beaucoup de, il a joué là-bas et tout, c'était de la pub, c'était plein de choses. Mais moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que Xabi Alonso, au Real par exemple, il aurait pu faire ce qu'il fait là tout de suite, genre direct en les prenant premier club direct?
Je ne sais pas.
Le Real de maintenant.
Parce que c'est une identité, c'est une identité forte quand même le Real, même si c'est pas le Barça.
Non non oui oui je sais mais le Real de, autant je te régis le Real il y a 3-4 ans je te régis je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que le Real maintenant, c'est enfin en mode c'est moins toxique quand même.
Non, mais Zidane, il l'a fait, par exemple, Zidane. Mais c'est pas un tacticien, je veux dire. C'est un meneur d'hommes,
oui,
surtout.
Oui, oui.
Est-ce que tactiquement, Xabi Alonso... Oui, bien sûr, mais je dis le Real parce que c'est où il a joué, mais t'as compris. Même tu lui donnes le Barça, Xabi Alonso, supposons. Bon, ça...
Hein, fait rien.
Tu penses que là, tactiquement, il arrive premier club, il fait ça? C'est un putain de bonhomme, si c'est le cas. Hein. Franchement. Mais je connais pas plus bonhomme que l'homme qui a été Xavi, tu vois. Donc si lui, il n'est pas capable, il est toujours frileux malgré tout, je ne vois pas un autre coach de cet âge-là arriver au Barça et faire ça, tu vois. C'est trop compliqué pour un jeune coach. Pour moi, il nous faut un coach avec de l'expérience. Nagelsmann, certes, c'est un jeune coach, mais Nagelsmann, il a une expérience. Il a une Ligue des Champions, non. Mais il a fait des gros trucs en Ligue des Champions. Il a fait des choses, tu vois. Xavi n'a rien
fait. Il a géré investir des
putains. Il nous faut un Klopp, il nous faut un gars comme ça pour moi, tu vois. Pour donner un nom, parce qu'à cœur on a donné, j'en donne.
Ah, moi c'est Klopp.
Il nous faut un Klopp. Tuchel, je suis pas trop fan, mais à la limite Tuchel, tu vois, mais Klopp, tu vois vraiment un mec comme Klopp qui
tu sais, Médard, excuse-moi de te couper. Je l'avais dit il y a 2-3 podcasts, pour moi le rêve absolu c'est Klopp. Il a tout.
C'est un coach tellement complet, ce coach, il sait tout faire. Et je pense qu'il arrive, même s'ils sont bien Liverpool en ce moment, je pense qu'il arrive quand même dans une fin de cycle. Tu vois, où.
Moi, je pense qu'il va.
Là, il est plus là, tu vois. Ouais. Il va perdre quelques joueurs.
Je pense même, Klopp, je pense qu'il va prendre une petite pause, tu vois. Une petite pause d'un an, un an, demi. Et puis après, il prendra la.
Ou une sélection.
La Mannschaft, ouais. Il va prendre la Mannschaft, de toute façon.
Ouais.
En plus, ça, c'est vraiment deux étoiles qui s'alignent, quoi. Tu vois, c'est, il galère un peu. Enfin, il galère pas trop à Liverpool, là, ça va, mais il y a un cycle qui se termine. La Mannschaft, tu vois que c'est compliqué. C'est parfait pour les deux. Ils peuvent se retrouver facilement, tu vois. C'est comme deux amoureux qui
marchent dans la rue.
T'as des choses à nous dire, frérot.
Non, mais attends.
Félicitations, frérot.
Bah, finalement, pas de félicitations du coup là, non, pas du tout. Là, on est à vide là.
Tu passes une annonce? Vas-y, c'est ta minute.
Annonce sur un podcast.
En grosso modo, pour faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit là, on est encore dubitatif. La situation aussi du Napoli pour ce tirage du 8e nous facilite un peu, donc on se dit ça va peut-être se passer. Par contre, il va falloir vraiment un réveil collectif de l'équipe. Un réveil où il va falloir se dire qu'au bout d'un moment, les attaquants doivent aussi prendre leur responsabilité, pas que aussi les joueurs, plus de Pedri. On veut retrouver ce Pedri-là qui nous avait plu sur ces dernières saisons. Une phase défensive. On n'a pas parlé d'un joueur qui, pour moi, est essentiel dans cette défense, c'est Christensen. Voilà, c'est pour moi le joueur où, quand il est là, tu vois directement qu'il y a une phase au Barça.
Ouais, c'est moyen.
C'est moyen, mais comparé aux autres.
Je suis d'accord, Mehdi, mais il faut savoir le dire aussi, il faut être honnête.
C'est moyen quand tu vois les performances de Jules Koundé.
Je suis gentil.
Moi, Christensen, il m'a pas, j'étais pas choqué de, tu vois.
Non, il y a beaucoup de phases défensives.
Ouais, je suis d'accord.
Il est pas serein dans ce qu'il fait.
D'accord.
Genre, il va au duel, mais en demi-teinte, il hésite entre deux choix dans son cerveau et du coup, il rate un truc. Et en fait, genre, notre défense, je sais pas, ils ont fait quoi, mais ils sont tous bourrés. Donc, en fait, c'est un problème. Je sais pas, il s'est passé quoi.
Est-ce que ça coïnciderait pas avec le départ de Ter Stegen, avec la blessure de Ter Stegen?
Ça coïncide pour moi avec la blessure de Gavi. T'as perdu l'âme de l'équipe pour moi.
Mais il a raison sur Gavi.
En fin de saison.
Moi, j'ai peut-être un autre Moi, j'ai peut-être un autre avis controversé, mais on va prendre pour un taré. Moi, je pense. Ouais, il a raison.
Oui.
Sûrement, je trouvais qu'il y avait un petit problème, mais moi, je pense non, que même s'il il était en fin de vie et qu'il fallait vraiment qu'il parte, hein, moi, je trouve pour qu'il parte, frère. Mais les gars.
Busquets, on va ouvrir un débat dans pas longtemps. Non, il a raison. Je suis d'accord.
Sans Busquets, on va ouvrir un débat dans pas très longtemps, les frères. Vraiment.
Attention,
sans Busquets, on va ouvrir un débat dans pas longtemps. Parce que la solidité défensive va passer, enfin, comme on veut, nous. Hein. Mais...
non, mais en fait, c'est qu'il te manque ce Gavi, ce Busquets. Il te manque ce joueur qui te casse des actions. On l'a pas. Moi, c'est le gros problème du milieu de terrain. Avec le ballon, on est très fort au milieu de terrain. C'est sans ballon, les transitions, on se fait fusiller à chaque fois. Parce que tu l'as dit, il y en a aucun qui a le comportement de Gavi. Ni De Jong, ni Gundogan, ni encore moins Pedri. Et Busquets, malgré tout, c'était une tour de contrôle.
Encore moins Pedri,
on peut dire ce qu'on veut. Oui, quand il y avait des transitions rapides, des fois, il était un peu en retard parce qu'il est très lent. Mais il avait une science du placement qu'aucun de nos milieux n'a déjà, premièrement. Et surtout, il avait du vice. Il avait du vice. Les gens, ils négligent beaucoup ça. Et je l'ai négligé très longtemps dans ma vie, cet aspect du vice. Le vice, pour un milieu de terrain et pour un joueur tout court, hein. Je peux te parler de Suarez, je peux te parler de Ramos. C'est des joueurs qui ne sont pas milieu de terrain. Mais ils ont du vice. Et Gavi a du vice. Frère, il a du vice.
Ils ont du vice.
Non, mais, raison, en plus.
Ouais. Non, mais frère, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, frère. Oui, non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme Thierry Henry. Mais frère, ils ont du vice.
Il a raison.
Gavi, il en a. Il sait ce mec. Même s'il prend des jaunes, il est chiant et tout. Bah, c'est jaune, il me manque, moi. Tu vois. Il manque ce mec qui casse des actions, qui casse des joueurs. C'est pas grave.
Eh ben, tu vois.
Et je pense qu'elle a déjà ouvert les yeux aux gens.
Et ben, j'espère que sa blessure va ouvrir les yeux à beaucoup de gens parce qu'il était très controversé. Moi, ça a toujours été mon chouchou.
Il y a des mecs qui
toujours
préféré le tirer dessus parce que je sais pas comment.
C'est une âme pour cette équipe. Et on
non, parce qu'il jouait lié gauche.
Le catcheur. Ouais, le catcheur, ça préférait l'appeler le catcheur.
Mangez votre merde.
Pour des faves sur Twitter.
Pour faire plaisir
aux Tristan. C'est un
Real Madrid.
Mangez votre merde et venez pas vous plaindre. Ouais, c'est ça.
Bon, avant que ça parte en Rix, en pique. Les gars, je vais vous remercier d'avoir participé à cet épisode. C'est encore un épisode de très, très, très bon. Ouais, je voulais vous remercier. Et puis, tout le monde, on se dit à la semaine prochaine pour un numéro de Metz. Ok, un talk. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.